Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants, Urbania et sélection du Reader's Digest. Au programme, sommes-nous lassés des podcasts? Et comment apaiser l'anxiété? Bonne écoute!
Comment choisir la bonne résidence? Un texte de Marie-Ève Schaffer, paru dans l'édition de février de la revue Protégez-vous. Vous cherchez une RPA pour socialiser, obtenir des soins et vous sentir en sécurité. Nos conseils pour en trouver une à la hauteur de vos attentes. Le Québec est la province canadienne où les personnes âgées de 75 ans et plus optent en plus grand nombre pour la vie en résidence privée pour aînés, RPA. Selon la Société canadienne d'hypothèque et de logement, SCHL, 17 % d'entre elles avaient opté pour ce type d'habitation en 2021, alors qu'ailleurs au Canada, ce pourcentage se situait entre 5 et 10 %. Pour ces aînés, quitter un domicile où ils ont vécu pendant plusieurs années, voire des décennies, peut s'avérer une expérience pénible. C'est une étape phare parce qu'on réalise le temps qui passe, souligne la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. Ils réfléchissent ainsi au vieillissement, à la perte éventuelle de leur autonomie et même à leur mort. Leur capacité d'adaptation est aussi mise à rude épreuve dans ce changement de maison. C'est important qu'ils verbalisent ce qui est émotionnellement difficile, insiste la spécialiste. Que vous envisagiez d'aller vivre dans une RPA ou que vous accompagniez un proche dans ce projet, gardez en tête que ce déménagement peut susciter un choc émotif, surtout s'il est effectué rapidement. La décision est prise? Vous avez intérêt à dresser d'abord un budget et à déterminer les besoins auxquels la RPA devra répondre. Après quoi, informez-vous sur les résidences et visitez-en quelques-unes. Selon les experts consultés, la RPA parfaite n'existe pas, mais il y a moyen d'en trouver une où vous ou votre proche pourrez couler des jours heureux. Budgéter. La première étape consiste à faire un budget. Notez qu'en 2021, la SCHL évaluait qu'au Québec, le loyer mensuel moyen d'un logement sans service s'élevait à 1 922 $, alors que celui d'un appartement avec service atteignait 3 653 $. Attention! Des aînés commettent l'erreur de penser que leurs dépenses diminueront en déménageant dans une RPA puisqu'ils feront moins de sorties. Il y a en effet un changement dans le mode de vie. Cependant, si on rajoute tous les services, selon les besoins de la personne, le prix a tendance à augmenter, signale Patricia Girard, conseillère principale chez Desjardins Gestion de patrimoine. Passez d'abord en revue les sources de revenus. Par exemple, les montants mensuels qui viennent d'un régime de retraite, d'un fonds enregistré de revenus de retraite, FER, ou d'un fonds de revenus viagers, FRV. À cela, il faut ajouter les allocations versées par les gouvernements du Québec et du Canada, telles que le régime des rentes du Québec, RRQ, la sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti. Si l'aîné est propriétaire d'une maison et qu'il décide de la vendre avant de déménager dans une RPA, la liquidation de cet actif doit être considérée dans les calculs. Une fois que la maison est vendue, cela augmente les possibilités, dit Patricia Girard. En vivant dans une RPA, l'aîné a aussi droit à des crédits d'impôt du gouvernement du Québec. En voici deux incontournables. Crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés. Montant accordé aux personnes âgées de 70 ans et plus pour couvrir 36 % en 2022 des frais admissibles, services de buanderie, préparation de repas, entretien ménager, soins infirmiers et assistance personnelle. Il dépend des revenus de la personne si elle est autonome et si elle vit en couple ou non. Crédit d'impôt pour soutien aux aînés. somme versée aux aînés de 70 ans et plus selon leurs revenus. En 2023, elle peut atteindre jusqu'à 2 000 $. Pour avoir l'heure juste et pour profiter de tous les programmes et crédits d'impôt, vous pouvez faire appel à votre institution financière. Si la situation est plutôt complexe, par exemple, s'il y a plusieurs actifs en jeu, retenez les services d'un planificateur financier. Je vous rappelle que vous écoutez présentement « Comment choisir la bonne résidence », un texte de Marie-Ève Schaffer, paru dans l'édition de février du magazine « Protégez-vous ». Évaluez vos besoins. Avant de rechercher une résidence, il faut déterminer les besoins à combler. Sachez que les RPA sont classés selon les services qu'elles donnent. Catégorie 1. Services offerts. Organisme à but non lucratif qui offre au moins 2 services de base, la préparation de repas, des mesures de sécurité, l'organisation d'activités de loisirs et une aide domestique. Catégorie 2. Entreprise privée qui offre au moins 2 services de base. Catégorie 3. Résidence qui offre au moins 1 service de base en plus des soins infirmiers ou d'un service d'assistance personnelle. Catégorie 4. Résidence qui offre des soins infirmiers, un service d'assistance personnelle et au moins un service de base. Les RPA, qui font partie des 2 premières catégories, accueillent des retraités en pleine possession de leurs moyens, alors que celles qui sont classées en 3 et 4 prennent soin de ceux qui ont besoin d'assistance au quotidien. Une même résidence peut recevoir des personnes de différents degrés d'autonomie. Par exemple, elle peut comprendre des logements où vivent des aînés qui obtiennent peu ou pas de services et une unité de soins qui héberge des gens semi-autonomes. Les locataires peuvent ainsi rester dans leur RPA, même si progressivement, ils ont besoin de davantage de services. C'est important de demander si la résidence est évolutive et si elle est capable de s'adapter aux besoins de l'aîné, note Nathalie Perrault, directrice générale du portail Résidence Québec. Si un locataire perd peu à peu ses capacités et qu'il se trouve dans une RPA d'une catégorie qui ne correspond pas à ses besoins, il doit quitter la résidence, ce qui entraîne un autre déménagement et une nouvelle vague d'émotions. Dès que la personne atteint 1,5 heure de soins par jour, elle doit aller dans un CHSLD ou une résidence intermédiaire. Les RPA ne sont pas équipés pour la garder, indique Marc Fortin, président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés, RQRA. Des professionnels peuvent vous épauler pour déterminer dans quelle catégorie de RPA vous devez orienter vos recherches. Le travailleur social. Si votre proche parent est en perte d'autonomie, demandez l'aide d'un travailleur social. Vous pouvez en trouver un en contactant le guichet d'accès en soutien à domicile de votre région ou un CLSC. Au cours d'une visite, le travailleur social évalue l'état de l'aîné à l'aide, notamment du système de mesure de l'autonomie fonctionnelle. Ce questionnaire passe en revue les capacités de la personne dans ses activités quotidiennes, l'habillement, l'alimentation, l'hygiène personnelle, etc., et ses habiletés à communiquer, la locution, la vue et l'ouïe. Il examine aussi ses facultés mentales, la compréhension, la mémoire, le jugement, etc., et ses aptitudes à accomplir des tâches domestiques, préparer des repas, entretenir la maison, se déplacer, etc. Le conseiller en hébergement. Que l'aîné soit en perte d'autonomie ou pas, un conseiller privé en hébergement peut aussi donner un coup de main. Son travail consiste à effectuer des recherches pour trouver une RPA qui correspond aux besoins, aux intérêts, aux préférences en matière de logement ainsi qu'aux moyens financiers de son client. Le but, c'est d'amener la personne dans un endroit où elle va rester le plus longtemps possible, explique Nathalie Perrault. Le conseiller en hébergement peut-il vous suggérer une résidence qui présente des lacunes? S'il y a un problème avec l'un de nos clients, on va confronter la RPA. S'il n'y a pas de changement, on arrête de la recommander, indique Louis Sirois, président de l'Association des conseillers en hébergement du Québec, ACHQ. Il ajoute que ses membres partagent entre eux des informations sur les résidences problématiques. Sachez que ce sont les RPA qui rémunèrent le conseiller en hébergement. Dans nos ententes, elles ne peuvent pas refiler la note à l'aîné et celui-ci a droit à tous les escomptes et promotions en vigueur, insiste Louis Sirois. Je vous rappelle que vous écoutez présentement « Comment choisir la bonne résidence », un texte de Marie-Ève Schaffer, publié dans l'édition du mois de février dans la revue « Protégez-vous ». Les microplastiques seraient 5 fois plus abondants dans les océans que ce qu'on croyait. Un texte de Marine Cornu, paru le 10 septembre 2022 dans le magazine Québec Science. Il y aurait 5 fois plus de particules de plastique de moins de 5 mm en suspension dans les océans que ce que les scientifiques avaient estimé précédemment. C'est la conclusion d'une nouvelle étude internationale publiée dans la revue Microplastics and Nanoplastics. Elle se fonde sur l'analyse de plus de 8200 prélèvements d'eau de mer, soit environ 10 fois plus que le nombre d'échantillons évalués dans l'étude de référence précédente. Cette dernière, publiée en 2014, sous-estimait clairement les quantités présentes, concluent les chercheurs. Les données présentées dans ce nouveau travail proviennent de multiples projets de recherche menés de 2000 à 2019 et ont été standardisés avant d'être compilés. À la lumière de ces constats, les scientifiques estiment que 24 400 milliards de fragments de plastique flotteraient dans les océans pour un poids total de 82 000 à 578 000 tonnes. L'objectif de l'étude était de mettre en place une base de données accessible à tous afin de faciliter la recherche sur les microplastiques. L'équipe a également cartographié la répartition de cette pollution dans les océans du globe. Les endroits où de grandes quantités de déchets plastiques mal gérés sont déversés doivent être étudiés de manière intensive, préconise l'équipe, déplorant le manque de données sur les microplastiques dans l'océan Indien et les mers d'Asie du Sud-Est. Hélas, l'étude ne révèle probablement qu'une infime partie du problème, puisqu'on estime que 95% des microplastiques sombrent dans les abysses ou restent en suspension dans les colonnes d'eau profonde. C'est notamment ce qu'indique une étude publiée en juin dernier, qui a modélisé le mouvement des particules plastiques dans l'eau. Les particules les plus petites s'attachent très facilement aux micro-algues et prolifèrent à leur surface, notaient les auteurs. Le gros des microplastiques se trouverait donc enfoui à plusieurs mètres de la surface, à la limite de la zone lumineuse où la photosynthèse est encore possible et où les algues prolifèrent. Rien de très rassurant. C'était « Les microplastiques seraient 5 fois plus abondants dans les océans que ce qu'on croyait », un texte de Marine Cornu, paru le 10 septembre 2022 dans le magazine Québec Science.
Conjuguer interculturalisme et antiracisme pour repenser le vivre ensemble. Un texte de David Carpentier, paru dans le numéro 815, hiver 2021-2022 de la revue Relations. David Carpentier, doctorant en sciences politiques à l'Université d'Ottawa, est l'heureux gagnant de l'édition 2021 de notre concours d'écriture « Jeunes voix engagées » dans la catégorie « Analyse ». Voici le texte qui lui a valu une bourse de 500 $. Le débat public sur l'aménagement du pluralisme dans la société québécoise a connu un tournant important dans les dernières années. Depuis la commission Bouchard-Taylor et le débat sur la laïcité, on était habitué à la grande médiatisation et à la politisation des enjeux liés à l'expression du religieux dans l'espace public. Or, s'ajoute à ces discussions la question du racisme, que d'aucuns voudraient qualifier de systémique, et celle concernant la manière dont les institutions et les politiques publiques contribuent ou non à sa perpétuation. Alors que les gouvernements successifs semblent hésiter entre l'inaction et la négation, force est de constater que ce tournant met en cause les fondements de l'interculturalisme tels qu'ils ont été réfléchis par plusieurs figures nationalistes issues de l'école de pensée du libéralisme politique. De plus en plus associé à un discours sur la nation blanche par ses détracteurs, l'interculturalisme contribuerait à dissimuler et à maintenir les systèmes d'oppression du racisme et du colonialisme. Sa préoccupation pour la pérennité d'une nation francophone en Amérique du Nord ferait l'économie, voire carrément fi, d'une analyse permettant de déconstruire les processus d'exclusion des groupes racisés et marginalisés. Cette critique porte ainsi un projet radical d'égalité et de justice qui devrait se refléter davantage aux yeux de ceux et celles qui la portent dans la conception de la nation que met de l'avant l'interculturalisme. L'interculturalisme, une proposition libérale. Des intellectuels tels que Gérard Bouchard, Alain G. Gagnon et François Rocher ont contribué à populariser, surtout à partir de 2007, l'idée que le gouvernement du Québec devrait reconnaître formellement l'interculturalisme comme son modèle d'intégration des personnes immigrantes et de gestion de la diversité ethnoculturelle. Ce concept est présenté comme une voie mitoyenne entre, d'une part, le modèle assimilationniste français qui écraserait les différences au profit d'une identité nationale commune et, d'autre part, le modèle multiculturaliste anglo-saxon qui valoriserait plutôt l'expression des particularismes ethnoculturels, religieux et linguistiques dans l'espace public. Pour le sociologue et historien Gérard Bouchard, qui a grandement contribué à conceptualiser l'interculturalisme, notamment dans son essai « L'interculturalisme, un point de vue québécois », Boréal 2012, ce dernier assurerait un équilibre entre les aspirations identitaires légitimes d'une majorité historique d'origine canadienne-française et un pluralisme respectueux des minorités ethnoculturelles. Les notions d'équilibre, de réciprocité et de dialogue entre la majorité culturelle et identitaire dite « fondatrice » et les minorités ethnoculturelles sont au cœur de l'interculturalisme qui s'appuie sur l'idée centrale de contrat moral. Ce dernier fait référence aux droits et aux responsabilités respectives de la société d'accueil et des personnes immigrantes. Il repose sur trois principes. Le partage du français comme langue commune de la vie publique, le respect des principes fondamentaux de la démocratie libérale reconnus dans les chartes et le droit et le devoir de toute personne de participer et de contribuer à la vie économique, sociale, culturelle et politique du Québec. Ces principes définissent la notion de culture publique commune, laquelle serait dynamique, tout comme sont évolutives les valeurs communes de la société, parmi lesquelles on peut retrouver l'égalité de genre, la laïcité et la primauté de la langue française. La primauté de cette dernière fait généralement consensus dans l'opinion publique et constitue le socle sur lequel l'interculturalisme libéral et l'idée de citoyenneté québécoise reposent. Par ailleurs, cette approche révèle aussi une conception particulière du rôle de l'État, dont l'intervention est vue comme étant légitime et souhaitable, afin de veiller à l'épanouissement d'une identité québécoise francophone et laïque. Vous écoutez « Conjuguer interculturalisme et antiracisme pour repenser le vivre ensemble », un texte de David Carpentier, paru dans le numéro 815 hiver 2021-2022 de la revue Relations. Une critique différentialiste. En s'inspirant des études postcoloniales et du pluralisme radical, une critique dite différentialiste de l'interculturalisme libéral a été formulée par des personnes comme Paul Hayde, Daryl Leroux et Daniel Salé. Selon cette perspective qui s'intéresse aux rapports de pouvoir qui participent au processus d'exclusion sociale, de racialisation et de reproduction du statut des groupes dominants, l'interculturalisme libéral serait problématique puisqu'il véhicule une conception de la nation centrée sur l'expérience qu'en font les membres de la majorité. Cette expérience particulière tend à être présentée comme universelle dans le discours public et serait imposée aux autres à travers les idées de culture publique et de valeurs communes. Le discours public portant sur ces valeurs, la laïcité et l'égalité de genre, par exemple, participerait à la construction de représentations des personnes immigrantes et racisées comme posant une menace pour la nation québécoise et ses principes progressistes. Pensons aux femmes musulmanes, souvent représentées comme de potentielles victimes, sans agentivité, que l'État doit sauver, ou encore aux hommes musulmans souvent suspectés d'homophobie et de sexisme. Selon une critique différentialiste, l'interculturalisme et l'accent qu'il met sur la notion de réciprocité contribueraient aussi à dissimuler les rapports de pouvoir entre les différents groupes composant la société. Il demeurerait silencieux sur la propension qu'a la majorité à réaffirmer épisodiquement son hégémonie culturelle et à déterminer seule les conditions du vivre ensemble. À cet effet, la centralité de la langue française dans le discours public portant sur une intégration réussie serait problématique puisqu'elle occulterait l'importance d'autres barrières nuisant à la participation des personnes immigrantes ou racisées à la collectivité. La géographe Délice Mugabeau souligne en ce sens que parler français ne protège pas une personne noire de Montréal de la violence et que la prépondérance de cet enjeu linguistique contribue à l'invisibilisation du racisme. Elle conteste l'idée dominante selon laquelle la société québécoise serait post-raciale et que la racialisation ne constituerait pas un facteur explicatif de l'accès inégal aux biens sociaux et aux ressources. Réconcilier l'interculturalisme avec sa critique. Cette critique radicale de l'interculturalisme libéral montre que la recherche d'un équilibre entre les aspirations identitaires de la majorité et le respect de la différence des minorités demeure difficilement réalisable tant que la majorité refuse de reconnaître son statut hégémonique et les responsabilités qui en découlent. Plutôt que de motiver la condamnation de l'interculturalisme et de sa conception de la nation de manière définitive, ces critiques ont surtout le potentiel de les ouvrir davantage à leurs propres promesses d'inclusion et de solidarité. En se décentrant de l'expérience de la nation faite par les membres de la majorité, l'interculturalisme pourrait devenir un vecteur d'émancipation pour tous les Québécois et les Québécoises, indépendamment de leur marqueur identitaire. Deux pistes de réflexion peuvent inspirer la réconciliation de l'interculturalisme avec sa critique différentialiste. D'abord, l'édification d'une culture publique commune et d'une citoyenneté québécoise doit devenir compatible avec l'objectif de démantèlement des systèmes d'oppression, du racisme et du colonialisme. il importe de réaffirmer que les personnes immigrantes et racisées ont toute la légitimité nécessaire pour participer aux discussions sur les critères de l'appartenance à la communauté politique. Nous gagnerions collectivement à recadrer le débat sur la différence afin qu'elle ne soit plus présentée dans le discours public comme une menace à la cohésion sociale et à l'identité québécoise qui est pourtant en constante mutation. Ensuite, l'interculturalisme libéral doit placer en son centre une perspective antiraciste, laquelle peut se traduire concrètement par la production d'une réflexion critique sur la blanchité et la reconnaissance du caractère systémique du racisme. La voie empruntée par la Ville de Montréal, qui a mené en 2018 une consultation sur le racisme et la discrimination systémique, est un exemple à suivre si l'on souhaite éviter qu'une absence de prise en considération sérieuse du racisme ne contribue à une forme de désintégration sociale. La difficulté qu'éprouvent plusieurs personnes racisées, souvent même celles qui sont nées ici, témoigne de cette désaffection qui constitue aujourd'hui la plus grande limite au développement d'une citoyenneté québécoise. C'est seulement par l'engagement d'un véritable dialogue qu'on arrivera à la dépasser. C'était « Conjuguer interculturalisme et antiracisme pour repenser le vivre ensemble », un texte de David Carpentier, paru dans le numéro 815, hiver 2021-2022 de la revue Relations.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Nicolas Zartman à la recherche, à la présentation et au montage.